savoir. Ce matin, au Collège de France. Des inventions politiques parmi les plus élaborées de la Grèce ancienne est le fédéralisme, ce système dont Montesquieu, au chapitre 9 de son livre « L'esprit des lois », fait le modèle du bon gouvernement. Ce système redevient aujourd'hui un enjeu politique majeur. C'est pourquoi Denis Knopfler, titulaire de la chaire d'épigraphie et histoire des cités grecques, a intitulé son cours « Le fédéralisme antique en question, renouveau et transformation des confédérations hellénistiques sous la domination de Rome ». Dans ce cours, il examine de très près, et sous l'éclairage de l'érudition la plus contemporaine, un certain nombre de confédérations, leur structure, leur représentation, mais aussi les raisons de leur défaillance à certaines périodes symptomatiques de leur histoire. La dernière confédération étudiée par Denis Knopfler est sans doute la plus importante et la plus mal connue. Il s'agit de la confédération béotienne, méconnaissance à laquelle ces grandes références que sont les historiens de l'Antiquité comme Polybe et Tite-Live ne sont pas étrangers. Polybe, parce qu'il écrivait dans la fascination du monde romain à partir de son expérience d'une confédération rivale, et Tite-Live parce qu'il relisait Polybe, parfois un peu trop rapidement. Modèle de confédération basé sur la proportionnalité, le koinon béotien est encore aujourd'hui celui qui a jusqu'ici duré le plus longtemps. Bien entendu, son histoire n'est pas, loin s'en faut, un long fleuve tranquille. Et il connut nombre d'épisodes dramatiques jusqu'à sa première mort dûment orchestrée et avec quel raffinement politique par le pouvoir romain en 171 avant notre ère pour ressusciter dans les années 80 toujours avant notre ère et disparaître à jamais au IIIe siècle. L'examen de ces situations concrètes nous permet également de réévaluer l'histoire de la Grèce antique. Ce matin, donc, Denis Knopfler nous propose un tout autre modèle de confédération. Il analyse en effet la confédération des cités d'Asie mineure, prise entre les rois hellénistiques et la puissance romaine. Écoutez.
À première vue, rien de plus différent du koinon boiotôn dont les institutions, l'histoire, que le koinon qui va nous occuper aujourd'hui, cette association de cités de l'Asie mineure, puisque l'on n'a assurément pas affaire ici à un véritable État agissant souverainement dans ses rapports avec l'étranger, avec d'autres cités et confédérations. Quelque chose pourtant les rapproche, c'est de part et d'autre l'extraordinaire attachement, en dépit de maints bouleversements, à un héritage commun de nature religieuse, fondement de leur union ethnique. On pourrait même être tenté d'attribuer au koinon ton ionon, plutôt qu'au koinon boioton, la palme de la longévité. Mais cela reviendrait à tenir pour égaux deux compétiteurs ne jouant pas dans la même catégorie. puisque justement, à la différence des Béotiens, les Ioniens ont toujours échoué à dépasser le stade d'une amphictyonie, d'une association justement de caractère religieux lié à la célébration d'un culte, à la gestion d'un ou de plusieurs sanctuaires communs. Mais il aurait pu en aller autrement, en d'autres circonstances. Et c'est pourquoi, le plus souvent, les historiens du fédéralisme antique font une place à cette association. Même si les projets politiques des Ioniens n'ont été que très partiellement concrétisés. Car enfin, un projet avorté peut n'être pas moins intéressant qu'un projet abouti. L'auteur de « History of Federal Government », donc Freeman, 1862, date bien ancienne, ne s'y était d'ailleurs pas trompé, qui faisait des Ioniens, sur la base du témoignage d'Hérodote essentiellement, des précurseurs du mouvement fédéraliste. Mais il y a aujourd'hui une raison supplémentaire pour ne pas dédaigner le koinon des Ionon, des Ioniens, pardon. C'est le rôle qu'il n'a pas cessé de jouer, en dépit de l'absence de véritables organes fédéraux, comparables à ceux des grands koinas étoliens et achéens, dans les vicissitudes politiques qu'a traversé l'Asie mineure, notamment depuis la conquête d'Alexandre en 334 jusqu'à la création de la province romaine d'Asie en 129, et même bien au-delà pendant tout l'Empire. Cela ressort d'inscriptions, en assez grand nombre, qui suggèrent en effet que la vie émanant des cités ioniennes, leurs honneurs aussi, ont été pris en compte par les monarques hellénistiques, puis par les autorités romaines. On peut même se demander aujourd'hui si le koinon ton ionon n'a pas servi de modèle, tout en subsistant à côté de lui, au koinon ton enasiai poléon, c'est-à-dire à l'association regroupant toutes les cités de la province d'Asie. C'est en tout cas la question que se posait, il y a très peu de temps, un grand spécialiste de l'Asie mineure hellénistique et romaine, le regretté Peter Hermann, dans l'un de ses tout derniers articles, paru en 2002, un volume de Mélange, sous le titre « Das koinon ton ionon unter römischer Herrschaft », la domination romaine. Et bien entendu, il est essentiel de rappeler d'abord quelques données de base sur les origines et l'histoire de ce koinon jusqu'au IVe siècle, époque à partir de laquelle on assiste comme à un renouveau de l'institution saisissable, surtout à travers des documents épigraphiques émanant directement de lui. Le texte fondamental reste, on le sait, un fameux excursus consacré par Hérodote aux Ioniens au début de son grand ouvrage. Livre 1, chapitre 142 et suivant. Développement bien informé, et peut-on croire à ses objectifs, car si l'historien d'Halicarnas pouvait se montrer critique à l'égard de la conduite des Ioniens vis-à-vis des Perses, avant et après la conquête, il les connaissait de près, en voisins, pleins d'admiration pour leur langue et leur culture. Hérodote note que les Ioniens avaient fondé jadis un sanctuaire commun, le Panionion, sur le cap Mycale, en face de Samos. Cette fondation remontait-elle à une très haute antiquité, comme l'affirme la chronique de Paros, qui est un document hellénistique, une véritable chronographie, qui place la création de la fête des Panionia, laquelle suppose l'existence d'un sanctuaire commun, en 1085 déjà. Donc, l'époque, on peut dire, de la colonisation ionienne en pleine protohistoire égéenne. On verra dans un instant que le volet archéologique de la question est actuellement en pleine ébullition, dans la mesure où l'on a pu mettre tout récemment en doute que le sanctuaire identifié depuis un siècle comme étant le Panionion, justement, au nord du cap Mycale, puisse être le sanctuaire archaïque visité par Hérodote, celui donc de la grande époque des Ioniens. Il s'agirait d'une installation datant du IVe siècle seulement, correspondant dès lors à l'époque où le koinon lui-même fut restauré après une longue éclipse. Mais ce problème devra être examiné, brièvement d'ailleurs, en relation avec un texte historique qui suggère effectivement, de manière assez claire, que le panionion ne fut pas toujours situé au même emplacement. Quoi qu'il en soit de ce point, on sait que la fréquentation du panionion archaïque était réservée à ceux des Ioniens qui avaient la même origine, à savoir l'Achaïe, au nord du Péloponnèse, où se trouvaient 12 antiques cités, formant elles-mêmes une association, laquelle d'ailleurs devait constituer le noyau de la future confédération achéenne. Ce nombre de 12 avait évidemment une forte valeur symbolique, indiquant un ensemble plein, parfait, comme les 12 lunaisons de l'année, les 12 dieux de l'Olympe, etc. On sait d'ailleurs qu'une autre association de caractère religieux, l'Amphictyonie de Delphes et des Thermopyles, était constituée également de 12 membres. Sauf que là, il s'agissait de 12 peuples, ethnées, alors que dans l'Ionie, ce sont 12 cités, poleis, appartenant au même ethnos. C'est donc sur le modèle de la mère patrie achaïenne et achéenne, probablement, en tout cas telle est la tradition, que les Ioniens d'Asie avaient structuré leur koinon. Hérodote le laisse entendre de manière assez claire, et c'est lui qui nous fournit d'ailleurs la liste de base des 12 cités ioniennes, telle qu'elle était établie de son temps, avant et déjà avant la révolte de l'Ionie au début du 5e siècle. C'est donc en partant du sud, c'est Milet, puis Mion, toute une petite cité proche de Milet, Priène, Éphèse, Éphèse la grande cité ici au fond du golfe, Colophon, plus au nord, Lébédos, Théos, Clazomène, Phocée, Érythrée, dans cette péninsule, et enfin évidemment les deux grandes îles de Chios et de Samos. Liste de base donc, mais qui n'a pas été immuable, et même chose notable pour ce qui est du nombre des États membres. D'après Vitruve, en effet, Vitruve, on est un peu surpris de trouver Vitruve ici dans son traité d'architecture, livre 4, chapitre 1, un ouvrage qui évidemment est tout pénétré de culture hellénistique, il y aurait eu 13 cités à l'origine, fondées à partir d'Athènes, Athènes qui avait prétention d'être la métropole des cités de l'Ionie, par ailleurs. Quelle était alors cette 13e cité? Selon l'auteur latin, il s'agissait de Mélitae, erreur véniel pour Méliae, ville située sur le Cap Nicale, justement, et mentionnée de fait par le vieil Hécatée de Milet, un prédécesseur encore d'Hérodote, à la fois historien et géographe. Cette cité aurait disparu de l'époque archaïque, les Ioniens des 12 autres cités lui ayant déclaré la guerre, dit Vitruve, à cause de l'arrogance de ses habitants, propter civium arrogantiam, et l'ayant finalement détruite de fond en comble. Dans l'esprit de Vitruve, et certainement de sa source hellénistique, cette péripétie n'était pas là pour rendre compte du nombre de 12 finalement adoptés par les Ioniens, mais bien plutôt pour justifier, contre la tradition hérodotéenne, le nombre 13. Puisque Mélitae aurait été remplacé ensuite, dit Vitruve, par Smyrne. L'entrée de Smyrne dans le koinon en tant que 13e cité est un fait avéré, mais qui en réalité, on le verra, est beaucoup plus tardif. Donc il n'y a pas un véritable remplacement. On notera toutefois que cette ville prestigieuse, cette ville de Smyrne, au témoignage déjà d'Hérodote, 1149, fut annexée par les Ioniens et demandait à entrer dans la ligue des douze cités, ou participer à la fête des Panionia. En fin de compte, il n'y a qu'une chose à retenir de la tradition un peu laborieusement rapportée par Vitruve. C'est l'existence, à haute époque, d'une cité de Méliae, contre laquelle les autres Ioniens se liguèrent, en raison de ses prétentions, sans doute, à dominer le sanctuaire commun. Ville éliminée ensuite brutalement. Il est frappant de trouver une référence indiscutable à cette guerre et à l'existence de cette petite cité disparue de Méliès, dans une inscription du début du IIe siècle, qui est un arbitrage entre Samos et Priène par les Rhodiens. Et on fait ici référence à un historien local, en tout cas milésien, Mayandrios, qui mentionnait le pays, le territoire appelé Mélias, en dorien, et faisait allusion à une guerre dite Méliakon, ou Méliakos Polémos. Autrement dit, c'était considéré comme un fait historique avéré. De fait, c'est la cité de Priène qui tira parti de l'élimination de Méliès à une date que l'on situe aux alentours de 600. Puisqu'en tout cas, dès avant la conquête perse, les gens de Priène s'étaient vus confier par les autres Ioniens l'administration du Panionion avec certains privilèges d'ordre cultuel. Tandis que la propriété du sanctuaire, évidemment, revenait à l'ensemble des 12 cités. C'est là qu'ils se réunissaient sans doute annuellement pour un sacrifice solennel, c'était l'élément essentiel de la fête, à un dieu qui est Poséidon dit Helikonios, un dieu taurin dont le culte fort ancien trouve un écho dans le nom de moi ionien Taureon. Taureon, le mois où l'on sacrifie le taureau à Poséidon. Donc, ce dieu Poséidon, ancien, et qui n'est pas l'Apollon Panionius, comme le dit Vitruve, là encore un peu abusé par sa source hellénistique, sans doute, qui voulait donner une place éminente à un Apollon important pour les Ioniens, non pas tellement l'Apollon de Delphes, que l'Apollon de Claros, près de Colophon. Ces réunions régulières au Panionion, en dépit de leur caractère foncièrement religieux, furent toutes naturellement l'occasion de délibérations de nature politique ou même militaire, plus ou moins formellement conduites à l'issue de la cérémonie religieuse. Tel fut surtout le cas à l'époque critique, où les Perses entamaient la conquête de l'Asie mineure après l'élimination du roi Crésus de Sardes en 547. Certes, comme le laisse voir Hérodote, les Ioniens ne parvinrent pas, justement, à s'entendre sur une commune politique de résistance à l'envahisseur étranger, car les Miséliens avaient bon espoir de tirer leur épingle du jeu autrement, en raison de liens anciens. Mais cela n'empêcha pas, apparemment, les Ioniens à continuer à se réunir. En tout cas, c'est dans ces années-là qu'Hérodote rapporte des projets d'union politique. Chapitre 170 du livre 1. Une discussion et deux éminents intellectuels, peut-on dire, l'un et l'autre comptés au nombre des sept sages, Thalès de Milet et d'abord Bias de Priène. Aux yeux de l'historien des guerres médiques, le conseil le plus judicieux était aussi le parti le plus radicalement novateur. Il émanait de Bias de Priène, qui suggérait en effet aux Ioniens de partir en une expédition commune, koinon stolo, pour fonder une ville unique de tous les Ioniens, Pauline Mian, Ktizain, Panton Ionon, en Sardaigne, la plus grande des îles, où ils vivraient non seulement libres, mais prospères en dominant sur d'autres peuples. Au lieu que, dans l'Ionie, il n'y avait aucun espoir, la situation étant désormais catastrophique. Notons que, tout audacieux qu'il fût, ce projet n'était pas totalement utopique, puisque certains Ioniens abandonnèrent bel et bien leur cité menacée, ainsi les gens de Théos pour la Thrace, pour leur colonie d'Abdère, et surtout une partie des gens de Phocée se dirigèrent vers l'ouest, non pas tant en direction de Marseille, de Massalia, qu'ils avaient fondé 50 ans plus tôt, mais à défaut de la Sardaigne, pour la Corse, Analia, et puis au terme de bien des péripéties, ils fondèrent une cité, là au sud de Naples, Velia, Huellet, Hélé, qui a subsisté ensuite durant toute l'Antiquité. L'utopie, en fait, c'était de songer à une entreprise commune de tous les Ioniens. trop divisé pour cela. Et c'est pourquoi l'autre projet, celui que Hérodote traite à Thalès, vers la même époque, ne fut pas davantage adopté. Quoiqu'il pût paraître singulièrement plus aisé à réaliser, car pour le sage milésien, il ne s'agissait plus de quitter l'Ionie, cette contrée qui, à en croire Hérodote, et il n'avait sûrement pas tort, jouissait du plus beau climat et du plus beau ciel. Non, les Ioniens étaient invités à s'unir politiquement, en se donnant un conseil unique, hen bouleuterion, ce qu'ils n'avaient donc pas encore, lequel siégerait à Théos, c'est-à-dire nettement plus au nord que le Panionion, considéré comme le Messon, le centre de l'Ionie, et que les autres cités, tout en subsistant, il ne s'agissait pas de les abandonner totalement, seraient considérés dès lors comme les différents cantons, en quelque sorte, d'un seul et même État, donc à la manière des dèmes de l'Attique. C'était donc un véritable synécisme, synoikismos, réunion, qu'aurait dû aboutir le projet de Thalès, avec la création d'une grande ville, une mégalépolis en quelque sorte, sans qu'il y ait pourtant, encore une fois, abandon des sites occupés par les 11 autres villes. À l'évidence, le projet n'était pas mûr, car les cités de l'Ionie étaient, en dépit de leurs liens linguistiques et religieux, trop jalouses de leur indépendance pour y renoncer. Il aurait fallu que la chose fût proposée en réalité par un demi-millénaire plus tôt, comme dans le cas justement d'Athènes, où l'on assiste dans la proto-histoire à cette intégration de toutes les communes de la péninsule attique. Vers la fin du VIe siècle, à une époque où les cités atteignaient justement leur plus grand développement, leur épanouissement, l'unification politique n'aurait pas pu être accomplie ou ne l'aurait pu l'être que sous la férule, justement, d'une cité hégémonique, comme Thèbes en Béotie. Ou alors, il aurait fallu, je pense, qu'un troisième sage eût l'idée géniale d'une constitution proprement fédérale, ce qui n'était pas le cas du projet de Thalès. Ce n'est pas une fédération, à proprement parler, une sumpolitéia. En fait, une fédération semblable à celle qu'imagina au milieu du 5e siècle le législateur béotien anonyme, c'est-à-dire une fédération qui supposait une représentation proportionnelle. Parce que dans l'Ionie, les villes étaient de taille extrêmement diverse, très différentes. On le voit assez bien à travers les effectifs que Hérodote, dans un autre passage, livre 6 ou 7, donne des effectifs de la flotte ionienne contre les Perses à l'Adée, dans le golfe de Milet en 494. On voit que certaines cités, comme Milet ou Chios, ont 80, voire 100 vaisseaux. Les Samiens en recrutent 60. Puis ensuite, on passe à 17 seulement pour Théos, 12 pour Priène, et moins encore pour Érythrée, pour Mionte, ou pour la malheureuse Phocée, déjà à peu près vidée de ses habitants. Il est clair que dans ces conditions, un système de districts eût été indispensable. Il aurait fallu regrouper les villes, petites et grandes, dans des unités qui auraient été chacune égales en poids. Mais cette idée, à supposer qu'elle ait été évoquée, n'eut pas le temps, en tout cas, de mûrir. Tout au plus peut-on admettre que fut comprise, dès la fin du VIe siècle, la nécessité d'un organe délibératif commun, d'une espèce de boulet, conseil, convoqué au Panionion, puisqu'Hérodote fait état, en 495, donc juste avant la fin de la révolte de l'Ionie contre les Perses, avant l'Adée, d'une réunion de pro-bouloi, de conseillers qui préparent la délibération, délégués par les cités ioniennes. Donc, un embryon, quand même, d'organes communs. L'époque classique est comme un trou noir pour le koinon des Ioniens. Pendant plus d'un siècle, il ne paraît y avoir aucune réunion au Panionion, ce qui doit résulter peut-être d'une mesure prise par l'autorité perse, au début, en tout cas, immédiatement après la défaite des Ioniens. L'accès même au sanctuaire peut peut-être d'ailleurs interdit. Mais ces situations se modifient nécessairement assez tôt avec la victoire des Grecs sur les Perses dès 478, sans provoquer une renaissance immédiate du Panionion, qui reste véritablement en veilleuse pendant fort longtemps. Il est frappant d'ailleurs qu'Hérodote parle de ces fêtes, des Panioniens, comme d'une chose passée à l'imparfait. Ça n'existe plus de son temps. On a cru cependant pouvoir inférer d'un passage de Thucydide, livre 3, à propos de l'instauration par Athènes d'une fête à Délos, des Délia, en 425-424, que les Éphésiens qui sont mentionnés dans ce texte, à titre de comparaison, comme les Ioniens d'aujourd'hui, que ces fêtes d'Éphésia, ces fêtes célébrées à Éphèse, étaient en quelque sorte les Panioniens sous un autre nom. Il y a eu tout un débat là-dessus, notamment au début des années 1980, en faveur ou contre cette identification qui, en fin de compte, ne me paraît pas pouvoir être admise. Ce qui est absolument certain. En revanche, et cela au témoignage de plusieurs inscriptions hellénistiques, c'est qu'à partir d'un moment donné, assurément, le Panionion fut bel et bien fréquenté à nouveau, les Panionia célébrés par la communauté ionienne. La question qui se pose dès lors est de savoir dans quelles conditions ou circonstances eut lieu cette reprise des activités communes. Secondairement, quel en fut exactement le théâtre? Deux problèmes certes distincts, mais qui, je pense, aujourd'hui doivent être abordés conjointement. Une volonté de renouer avec les traditions panioniennes se fait jour à travers un curieux épisode qui était relaté très certainement par l'historien du IVe siècle, Éphore de Cumée, de Cumes en Asie mineure, donc un voisin, un assez proche voisin au nord de l'Ionie. On en possède un résumé assez substantiel dans le livre 15 de Diodore de Sicile, et aussi, plus succinctement, chez Strabon, livre 8. Et cela en relation avec un célèbre cataclysme, à la fois tremblement de terre, suivi d'un raz-de-marée, un tsunami, dirions-nous dans le jargon international d'aujourd'hui, qui se produit en 373 avant Jésus-Christ, en Achaïe, donc dans cette ancienne patrie des Ioniens, selon une tradition bien établie. Bon, les anciens avaient évidemment alors cherché une explication à ce tremblement de terre. Certains physiciens d'alors cherchaient la cause dans des mouvements telluriques naturels. La majorité des contemporains y voyaient en effet une conséquence de la colère du dieu Poséidon, la grande divinité justement de la ville d'Éliké, patrie du Poséidon Helikonios, justement des Ioniens. Colère, pourquoi? Eh bien, contre les habitants de cette région, justement, qui peu auparavant, d'après Diodore et d'après Strabon qui est même plus précis, qui dit une année exactement avant, avait refusé de donner suite à une requête des Ioniens, donc nous sommes au début du IVe siècle, venu en députation sacrée, une théoria, dans ce pays qu'ils regardaient, encore une fois, comme leur mère patrie. Et dans le sillage d'effort, très certainement, Diodore a tenu à indiquer ce qui avait bien pu amener les Ioniens à demander aux Achéens, dont c'est déjà fédéré en Koinon, justement, eux aussi, de leur accorder le droit de faire des copies aphidrumata des autels, voire même de la statue, d'après Strabon, du dieu Poséidon. C'est, justement, écrit Diodore, qu'en Ionie, neuf cités avaient coutume de se réunir pour la fête des Panionia. En commun, elles offraient à Poséidon de grands sacrifices d'origine ancienne dans un endroit désert, dit Diodore, situé près de Mycale. Plus tard, des guerres dans cette région rendirent impossible la célébration des Panionia et l'on transporta cette réunion solennelle dans un lieu plus sûr, à l'abri de tout danger, qui se trouvait près d'Éphèse. C'est manifestement donc en rapport avec ce transfert du lieu de culte, du culte que les Ioniens, après avoir consulté l'oracle de Delphes, bien entendu, avaient député auprès des Achéens. Si tout n'est pas parfaitement clair dans ce résumé, il y a quelques informations intéressantes à glaner. Le chiffre 9, d'abord, au lieu de 12, peu surprenant, pour le nombre des cités, ce n'est pas forcément une erreur. En effet, on a pu suggérer, avec vraisemblance, qu'à la date de la députation, les cités insulaires de Chios et de Samos ne pouvaient plus participer aux activités d'une ligue qui, depuis la célèbre paix d'Antalcidas, 387-6, se trouvait à nouveau soumise, comme toute l'Asie mineure, à l'autorité du grand roi. Donc Chios et Samos étaient en dehors de cet ensemble. Il est possible aussi que la cité de Priène, qui avait un droit particulier sur le Panionion, ait connu une éclipse, longue éclipse de près d'un siècle, en tout cas d'un demi-siècle. C'est l'hypothèse la plus fréquemment admise par les archéologues, notamment à la suite de guerres incessantes. On voit, d'après Thucydide, que vers 445, il y a un conflit entre Milet et Samos au sujet de Priène, comme si on dépassait le territoire de Priène. En tout cas, ça a été toujours plus ou moins une pomme de discorde entre ces cités voisines. Donc, au moment de l'ambassade en Achaïe, vers 374, disons, le koinon des Ioniens pouvait bien être plus constitué que de 9 cités. Reste à savoir ce que fut exactement le transfert qui était l'objet même de cette solennelle députation, dont l'accueil, justement, par les gens des Lycées, sinon par l'ensemble des Achéens, fut assez déplorable. Précisément, les ambassadeurs sont mal accueillis, ils sont molestés même, et c'est donc, selon Diodore, la cause même de la colère de Poséidon qui anéantit peu après la ville d'Éliquée et également celle voisine de Boura. Mais alors, comment comprendre ce transfert? Est-ce qu'il y a là une incompréhension de la part de Diodore, comme beaucoup ont été enclins à l'admettre, y compris des spécialistes de cet auteur encore tout récemment? De fait, la perplexité est assez grande quand on lit d'une part que les Ioniens se réunissaient autrefois dans un endroit désert, près de Nikal, en Eremo Topo, ce qui désignait apparemment le sanctuaire retrouvé sur la côte nord, à l'ouest du cap Mikal, et que d'autre part, à l'issue des guerres, le sanctuaire aurait été transféré, nous dit Diodore, dans un endroit plus sûr et plus proche d'Éphèse, hein, Plésion tes Éphésou. Comment concilier cela avec le fait que le sanctuaire du Panionion était toujours, à l'époque hellénistique apparemment, au cap Mikal, toujours sous la dépendance de Priène? Est-ce que Diodore n'aurait pas dû parler d'un retour, alors, d'un retour au Panionion? Fallait-il supposer un exil temporaire aux abords d'Éphèse? Au vu de ce que un archéologue allemand tout récemment a fait connaître, on peut, me semble-t-il, suggérer une solution plus simple. Ce chercheur a montré en effet que l'identification traditionnelle du Panionion sur la côte nord, près du cap Mikal, Panionion, avec la ville de Méliès, que cette localisation n'était certes pas totalement erronée, mais que le temple, le sanctuaire en question, ne correspondait pas du tout au sanctuaire archaïque, celui d'Hérodote, le grand sanctuaire du Panionion. Et de fait, ce sanctuaire contient peu d'édifices, tous date, en s'il reste, au plus tôt du IVe siècle, donc rien d'archaïque, notamment les vestiges d'un bouleutérion, où on n'a pas le moindre objet qui soit antérieur au IVe siècle. L'identification de ces ruines au Panionion ne repose cependant pas pour rien, mais sur deux inscriptions, lesquelles sont justement du IVe siècle, pas antérieures. L'une avait été découverte il y a déjà fort longtemps, même au XVIIe siècle. C'est un document qui n'est pas inintéressant, on voit qu'il s'agit d'un décret par lequel les Ioniens réunis en conseil, edoxen ionon te boulei, accèdent à la demande des gens de Lébédos, une autre cité de la Confédération en quelque sorte, d'exposer dans le sanctuaire, à leurs frais, une décision de justice relative à des sacerdoces. Donc, on est entre Ioniens dans ce sanctuaire du Pagnonol. Et l'autre inscription fut découverte plus récemment, justement dans des fouilles allemandes des années 1960, qui ont prétendu confirmer la localisation du Pagnonion à cet endroit, une inscription qui est importante, c'est une loi sacrée, peut-on dire, reprise avec des restitutions peut-être un peu trop généreuses par Sokolovski, et qui nous montre aussi là mentionne des devoirs des cités membres sur un certain nombre de sacerdoces. On peut donc bien admettre que ce sanctuaire est celui du IVe siècle et des années postérieures. Et il ne fait qu'un, peut-on penser, avec celui que, justement, d'après Diodore, les Ioniens avaient déplacé dans un endroit plus sûr, là, au pied de la montagne, dans la plaine, et d'une certaine façon, plus près d'Éphèse, non pas à Éphèse, dit Diodore. Plus près d'Éphèse, dans la direction d'Éphèse. Pour ce qui est du grand et de l'ancien Pagnonion, alors justement cet archéologue allemand, Lohmann, propose de le chercher dans la montagne même du Cap Mical, dans une région extrêmement peu explorée, région désertique, justement, en eremo topo. Lohmann a découvert des vestiges d'un temple qui est manifestement archaïque et ionique, comme on a cette base ici très caractéristique d'une construction du VIe siècle, une construction ionique. Donc, il y aurait là un apport très important, d'autant plus que Lohmann propose de situer la mystérieuse ville de Méliès, qui était propriétaire de ce vieux Pagnonion, immédiatement à côté, dans un site fort important. Cette ville de Méliès n'aurait pas été, en fait, une ville ionienne, éliminée, éjectée, une ville carienne, une ville indigène que les Ioniens, justement, cherchent à conquérir et à anéantir. Donc la perspective est assez profondément modifiée. Et de ce territoire conquis, hérite alors, justement, les plus proches voisins, c'est-à-dire les gens de Prienne, qui deviennent désormais les gestionnaires, sinon les propriétaires, du Pagnonion. Voilà donc ce que paraît avoir été ce transfert du Pagnonion. Une opération hautement délicate, évidemment, car les dieux n'acceptent pas volontiers de déménager. Et c'est pourquoi il fallut consulter l'oracle de Delphes au début du IVe siècle, qui enjoint aux Ioniens de retourner en Achaïe et de faire des copies des aphidrumata, des statues primitives du sanctuaire de l'Achaïe, de Poséidon et Lykonios. Donc il y a eu véritablement, on peut le croire aujourd'hui, un déplacement du sanctuaire, toutes sortes de précautions, un déplacement que peut-être d'ailleurs il faut mettre en relation avec le déplacement de la ville même de Prienne, c'est en tout cas la chose là admise depuis longtemps, cette ville de Prienne, dont les ruines très importantes, au pied du Mical, vers l'intérieur, ne datent que du IVe siècle. On n'a rien trouvé de plus ancien à Prienne, alors que c'est une cité archaïque. Où était l'ancienne Prienne, la ville archaïque? Le problème est un peu le même que pour le Pagnonion lui-même. Ce qui est certain, me semble-t-il, c'est que dès le milieu du IVe siècle, Prienne est de nouveau bien établie et qu'elle est considérée comme le centre de la confédération ionienne. En effet, en 343 déjà, donc dès avant l'arrivée d'Alexandre, 10 ans plus tard, Prienne avait retrouvé sa position au sein du Koinon. Car on ne comprendrait pas sinon que dans une déclaration faite cette année-là, devant le roi Philippe de Macédoine, L'orateur Échine, l'orateur athénien Échine, dans l'ambassade 216, ait pu dire que le suffrage de l'érythréen ou du priénéen avait le même poids que la voix de l'athénien au sein de la double représentation des Ioniens, cette fois à l'Amphictyonie de Delphes. Le peuple ionien avait droit à deux voix. Pourquoi Priène dans la bouche d'Échine et non pas Milet ou Éphèse? Eh bien, parce que nulle autre cité de l'Ionie n'était plus habilitée, compte tenu de l'antique tradition, à représenter l'ensemble des Ioniens d'Ionie, de l'Asie, dans les rares occasions, à vrai dire, une occasion quelque peu théorique, où les Eubéens et les Athéniens consentaient à introduire un Ionien sur un des deux sièges amphictyoniques. À partir du début de l'époque hellénistique, l'activité politique du koinon se laisse appréhender à travers quelques beaux documents épigraphiques, dont aucun, chose remarquable, n'a été trouvé au Panionion. Il y a là une part de hasard, sans doute. Il y a beaucoup de choses. Puisque on sait par ailleurs que des inscriptions y étaient exposées. Ça, c'est indubitable. Mais c'est peut-être aussi le signe que le nouveau sanctuaire, donc celui qui avait été établi vers 360-310, autant qu'on peut voir aujourd'hui, n'avait peut-être pas retrouvé sa splendeur d'antan. Et ne paraît en tout cas pas avoir servi de cadre obligé à toutes les manifestations publiques des Ioniens. L'un de ces décrets nous manque en vérité. Nous ne pouvons en deviner l'existence, mais nous ne l'avons pas encore. C'est en quelque sorte le premier d'une série par lequel les Ioniens, à coup sûr, devaient rendre des honneurs divins, en tout cas des honneurs cultuels, à Alexandre le Grand. Dès après son passage en Asie Mineure, puisque il y a une référence, on va le voir dans un instant, à ce culte d'Alexandre dans un décret postérieur. Notons au passage que la plupart des cités en Asie Mineure, en Ionie, ont rendu un culte à Alexandre. Et il y a là un contraste assez frappant avec la situation en Grèce propre. En Grèce propre, Alexandre, c'est l'ennemi, c'est le conquérant qui asservit la Grèce. En Asie Mineure, Alexandre, c'est le libérateur, en principe, de la domination perse. D'où cette floraison de culte, et en l'occurrence d'un culte rendu par l'ensemble des Ioniens. On possède, en revanche, des témoignages, justement, à Priène, à Éphèse, dans d'autres cités, sur une fête appelée Alexandria. Mais pour ce qui est du koinon, le document qui a dû exister est encore à découvrir. Le plus ancien de ceux que nous avons conservés, c'est, en tout cas toujours à ma connaissance, un décret pris en faveur d'un officier de Lysimaque, c'est-à-dire à l'extrême fin, ou plutôt au tout début du IIIe siècle. Lysimaque, un des diadoques, pour un officier de Milet. Chose assez rare d'ailleurs, cette inscription nous est parvenue en deux exemplaires. L'un découvert à Smyrne, vers 1870, l'autre à Milet, quelques décennies plus tard. Et en fait, le décret nous apprend qu'il fut bel et bien gravé dans toutes les cités de Lyonie. Il y a quelques variantes entre eux, naturellement. L'une est importante parce que c'est plus qu'une variante, ce sont des décrets de transmission ou d'application, si l'on veut, des gens de Milet, on le voit ici, qui permettent d'ailleurs de dater assez exactement le texte, car le personnage qui est le magistrat éponyme, Télésias, et puis Télésiou, deux fois, peut être localisé, placé très précisément dans une liste de magistrats éponymes qui donnent leur nom à l'année, à Milet, pour l'année 289-288. Mais l'exemplaire de Smyrne, quoique moins complet, est intéressant pour un point, c'est que là, le koinon y est défini comme celui des 13 cités. ton tris kai deka poléon. Vous voyez alors qu'à Milet, on dit tout simplement yonon to koino, et on s'arrête là. À Smyrne, on tient à ajouter des 13 cités. Il y en a donc, alors là, incontestablement, 13 à cette époque. Et la 13e, c'était évidemment Smyrne elle-même. Hein. Smyrne elle-même qui vient s'ajouter comme le laissait entendre déjà Vitruve, dont le témoignage est par là confirmé, en tout cas sur le fond, même si visiblement il s'est trompé sur la date. Je remets le texte de Vitruve. Vers la fin, il dit que par la suite, bien plus tard, c'est grâce au roi Attal et à Arsinoé, Postea, Regis, Attali et Arsinoès Beneficio, que les gens de Smyrne ont pu entrer dans la confédération ionienne. Cette reine Arsinoé, ça n'est pas du tout l'épouse d'Attal, et le nom d'Attal n'a rien à voir ici, cela oriente évidemment vers l'épouse de Lysimaque lui-même, de ce roi Lysimaque qui est en possession d'une bonne partie de l'Asie mineure dès après 301. Or, le décret que nous avons, justement, le décret connu à Smyrne, honore un officier de Lysimaque. Lysimaque a joué un rôle important dans la Confédération, puisque, on le savait déjà d'après Strabon, livre 14, c'est lui qui donne, non seulement il donne un nom nouveau à la ville d'Éphèse, il l'appelle Arsinoéia, évidemment, du nom de sa femme, comme dit fort clairement Strabon, apothès gunaikos ten poline, etc. Et puis, par ailleurs, il réunit dans la ville d'Éphèse, qu'il déplace plus près de la mer, il introduit d'autres, de gré ou de force, d'autres cités de Lyonie. Pour ce qui est donc de cette entrée de Smyrne dans la Confédération en tant que 13e ville, c'est un fait qui s'est maintenu ensuite jusqu'à la fin de l'Antiquité. On a des témoignages dans des inscriptions d'époque impériale qui parlent de la tris kai dekapolis, du tris kai dekapolitikon koinon. Donc, la chose est bien avérée. L'intérêt du décret pour cet officier de Lysimaque, Hippostratos, vient de ce qu'il constitue un précieux témoignage sur le koinon au début de l'époque hellénistique. Le centre en est toujours le panionion, hein, le nouveau panionion, me semble-t-il, aujourd'hui. C'est là que le décret a été pris. C'est là qu'il sera gravé en priorité, on le dit, même s'il doit être gravé partout ailleurs. C'est là surtout que l'on dressera la statue équestre du personnage honoré. Cessas de autou, kai eikona kalken, f ipu en panionio. Ça prouve bien que il y a bien des documents du Panionion, des monuments du Panionion qui nous échappent totalement. On n'en connaîtrait rien s'il n'y avait pas cette mention, justement, ici, dans le décret pour Hippostratos. C'est un honneur considérable, évidemment. Un honneur royal. Et il me paraît clair que si on vote un tel honneur pour Hippostratos, on avait d'abord voté quelque chose de semblable ou même de supérieur pour le roi Lysimaque lui-même, qu'on ne pouvait pas oublié. En tout cas, on sait que ce roi fut honoré de culte, sinon par le koinon, du moins par des villes, comme justement Priène, la plus proche. Hein. On a un célèbre document de Priène qui fait un hommage très appuyé à Lysimaque, parce que Lysimaque a protégé la petite ville de Priène d'une attaque venue de Magnésie, une cité qui est proche vers l'intérieur, mais qui ne fait pas partie du koinon, qui ne fait pas partie des 12 ou 13 villes. Bah, il est vrai que d'autres cités du koinon ionien ne devaient pas avoir les mêmes sujets de satisfaction. Hein. Car la refondation d'Éphèse, à laquelle justement je faisais allusion il y a un instant, qu'on peut situer juste avant le décret pour Hippostratos, dans les années 294-290, avait entraîné pour bien des cités de profonds changements, voire leur disparition temporaire. On sait en effet par récit assez circonstancié de Pausanias, à la fois au livre 1 et au livre 7, que Lysimaque avait réalisé l'entrée de force dans la nouvelle ville des habitants de Colophon, et puis encore, plus loin encore, de Lébédos. Après avoir, en tout cas, détruit ou saccagé, rendu inhabitable ces deux villes. Le Périégète, donc, indique même assez précisément que les Colophoniens combattirent contre Lysimaque, combattirent les armes à la main contre les Macédoniens. Et vous voyez que ça donne c'est une version totalement différente de celle qui ressort du beau décret plein d'éloges à l'égard d'Hippostratos, officier de Lysimaque. Et les Colophoniens, donc, ont combattu au péril de leur vie. C'est ce qu'avait très opportunément rappelé Jeannet Louis Robert en publiant naguère des documents qui venaient de leur fouille de leur fouille de Claros près de Colophon, dans ce sanctuaire près de Colophon, au sud, au bord de la mer, tout près de la mer, disons, à Claros. Et donc on voit un écart considérable entre la réalité historique telle qu'on peut l'établir par les documents et d'autres textes et des éloges officiels dans le décret.
C'était Éloge du savoir. Ce matin, le Collège de France avec aujourd'hui Denis Kneupfler. Vous pouvez trouver tous les renseignements concernant le professeur Kneupfler, horaires des cours ou des séminaires, bibliographie, biographie et travaux divers, en consultant le site internet du Collège de France, dont voici l'adresse: www.college-de-france.fr. Réalisation Isabelle Huel. Présentation Christine Goémé. La semaine prochaine, dans l'éloge du savoir, le cours de Antoine Compagnon, consacré à littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, écrire la vie, Montaigne, Stendhal, Proust. Bonne journée à l'écoute de France Culture.